On va faire donc ensemble un petit tour de la question de Christ et culture ce matin. Et au début de chaque heure de cours que je fais ensemble avec mes sémistes, la première chose qu'on fait avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est prier. Donc on va prier ensemble et puis on se lance. Seigneur, merci pour la joie de vivre cette si belle journée. Et que cette belle journée qui nous entoure puisse refléter la joie, le bonheur que tu as placé dans nos cœurs. Que nous puissions, Seigneur, avec un ciel si bleu, si clair, avoir l'occasion de te voir encore plus clair aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour la grâce aussi de nous entourer de tant de frères et sœurs de partout et que tu fasses en sorte, Seigneur, que ces moments soient vraiment riches en encouragement et communion fraternelle. Nous puissions tous progresser ensemble selon ta volonté dans la mission que tu nous as confiée. Je te le prie au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Très bien. Est-ce que vous voyez bien au fond? Super. OK. Alors, aujourd'hui, donc, et j'ai plein de feuilles, donc il y a des chaises qui sont vides, mais peut-être les feuilles sont là. Vous aurez et les feuilles et sur l'écran, pareil. Donc, si, voilà, si vous vous intéressez plus à l'un ou l'autre, vous avez les deux choix. Et nous allons contempler la question, comment faire valoir le Christ au sein de notre culture. Alors, c'est le tristement choix de sujet ce matin. Pourquoi? Il est impossible quelque part que cette classe ne vous concerne pas. Impossible. Au moins de dire, ben, moi, je ne m'intéresse pas à moi. Voilà, oui. Chacun de nous, obligés, sont impliqués par ce sujet. Et nous avons donc à faire vivre notre foi dans un monde qui est présenté, ou que nous voyons, selon notre endroit, là où on est né, là où on vit, et tout le reste. Et nous allons contempler aussi la question de comment vivre la relation entre Christ et culture. Vous n'avez pas choisi votre lieu de naissance. Vous n'avez pas choisi votre année de naissance. Vous n'avez pas choisi vos parents, vos frères et sœurs, tout le reste. Plein de choses que vous n'avez pas choisies. Et vous vivez dans ce monde, et le mot qui correspond le mieux pour notre relation, je crois, entre le Christ et la culture, c'est que nous vivons tout cela, surtout inconsciemment. Nous ne sommes même pas conscients de ce qu'il y a ici, qui dirige et qui oriente nos pensées. Et nous sommes invités à contempler comment faire vivre tout ça par rapport au Christ. Voilà. Alors, je commence là. Déjà, cette image vous fait quoi? OK, voilà. Le flash est là, je vais passer, comme ça vous ne voyez plus.
Du pain, du pour ça. Pour ça, c'est du fromage.
1991, il y a 33 ans, ça tombe dans le même mois. Et je ne vais pas oublier. La première personne que Dieu nous a envoyée au début de notre ministère, qui a suivi des cours par correspondance, qui s'est plongée dedans, qui a tout pris de la parole de Dieu, qui s'est baptisée, elle s'appelait Brigitte, elle habitait à Fos, on est en 1991. Et on va faire connaissance avec la famille, parce que la famille a appris que leur chère Brigitte est tombée dans une religion, quoi? Américain, sectaire, voilà, ok? Oui. Culture. J'arrive, j'ai le mari qui s'appelle Jean-Marie. J'ai le papy, le père qui s'appelle Jean-Marie. Pas une blague, OK? Et on est à table, et moi et Guy, on est ensemble, et on est en face de Jean-Marie et Jean-Marie. Et ils voulaient bien nous accueillir, donc Jean-Marie et Jean-Marie, disent, asseyez-vous, merci. Écoutez, il sort une bouteille de rouge, il sort un camembert, OK? Ça, c'est l'histoire. Et il coupe, prend le petit morceau de camembert, bien. Écoutez, n'avalez pas, laissez ça sur la bouche. Prenez un petit peu de vert, de rouge, comme ça, juste tout petit là. Okay. Laissez ça les deux ensemble sur le palais. OK? Et on fait ça. Et en face de moi, qu'est-ce que j'ai? Jean-Marie et Jean-Marie. Alors, vous n'avez jamais goûté quelque chose d'aussi bon de votre vie. C'est pas? On est 33 ans plus tard, ils avaient bien raison. La culture. On n'est même pas conscient comment ça arrive, comment ça nous touche. On va regarder un peu la profondeur de tout ça. Alors, les études, tout ce qui est sociologique, anthropologique, vont nous dire quoi? Qu'il y a un niveau d'inculturation. On est touriste à l'arrivée. On commence à comprendre un niveau interlinéaire. Ça, c'est tout ce qui se passe, quoi, en français, entre les lignes. Tout ce qui est blague, voilà. Vous savez, il n'y a même pas les mots, mais la blague est là. Et l'étranger ne capte rien, mais tous les autres sont en train de rigoler, voilà. OK, vous vous souvenez de tout ça? Et puis, on passe à un autre niveau. Les valeurs qui ressortent de notre vision du monde. Okay. Nous allons parler au niveau le plus profond, parce qu'en fait, on n'est pas en train de traiter la sociologie ou l'anthropologie, on est en train de traiter la théologie. Et ça touche à notre vision du monde. En fait, c'est notre culture qui nous donne quelque part notre vision du monde. Et donc, contemplons ensemble les influences culturelles qui déterminent notre vision du monde. Alors, c'est toujours plus facile de prendre une cible qui n'est pas dans la... Bon, je suis dans la pièce, mais on va parler des Américains, ça c'est plus facile, OK? Voilà, c'est bien parti. Et c'est quoi la vision là-bas, du fond? Ben, c'est le rêve américain, vous avez déjà entendu parler de ça? Vous allez là-bas et vous pouvez, quoi, réaliser vos rêves. Et le rêve, bon, on le dit pas texto comme ça, mais le rêve c'est quoi? Vous allez devenir riche et... vous allez tout réussir comme ça. Voilà la vision du monde. Ça donne quoi comme valeur? Ah, vous allez travailler dur pour gagner votre rêve. Okay? Et vous allez poursuivre tout ce qui vous rend plus riche, qui vous fait monter davantage et vous allez monter. Voilà certaines valeurs. Donc, est-ce que 5 semaines de vacances, ça vous intéresse ou 500 000 à la banque? Là-bas, c'est sûr que vous allez mettre 500 000 à la banque et si vous avez 1 ou 2 semaines de vacances par an, vous vous en contentez. Vision du monde qui donne des valeurs. OK? Voilà. Et sur le plan de la foi, d'où est sortie l'idée de la prosperity gospel? Hein? L'évangile de prospérité. C'est là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le rêve américain. On le colle sur les textes bibliques et on sort avec une idée magnifique que vous devez tous devenir riches parce que c'est ce que Dieu veut pour vous. Pire encore, si vous n'êtes pas riche, c'est quoi? Hein, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre vie. Ah, Christ et culture. Bon, on laisse les Américains à côté pour l'instant. J'ai pris assez de coups comme ça. OK. Un autre cas de figure pour nous. Comment comprendre cette idée? Ben, c'est la différence entre je suis et je suis. C'est l'idée, et on va mettre les mots qui sont très longs, comme ça on pense qu'on est en des cours académiques et tout ça, mais ça veut rien dire. Mais christocentrique, centré sur le Christ, ou culturocentrique, il fallait inventer celui-là, okay, centré sur la culture et les valeurs qui sortent de notre culture. Eh bien, Exode, chapitre 3, nous donne une petite aide. On va faire comme des cours de CM, donc c'est pas moi qui lis les textes. Peut-être vous qui êtes plus rapprochés, quelqu'un qui veut aller à haute voix, allez-y. Exode, chapitre 3, versets 10 à 12. Qui est partant? Prisque, c'est parti.
Va maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? « Je suis avec toi, dit-il. » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je serai. » Il dit, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. »
OK, voilà, on a tout un jeu de mots en Exode chapitre 3 avec notre grammaire, je suis. Dieu dit, je m'appelle, je suis. Et Moïse, quand il est envoyé en mission, sa première question, c'est quoi? Qui suis-je? Christ et culture, Dieu, le je suis et moi, qui suis-je? Quelle est la question qui est mal placée là, dans ce récit? Et c'est la question de Moïse. Qui suis-je? Et vous voyez comme Dieu il répond, peut-être, ah oui, j'ai oublié, vous voyez qu'il y a des versets qui manquent, mais entre deux versets, vous avez Dieu qui dit à Moïse, mais je t'ai choisi parce que tu es le Superman que je voulais. Pas du tout. Dieu ne répond même pas à sa question, sauf pour dire, non, 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 c'est pas qui suis-je, c'est pas le petit je suis. La réponse à ta question, c'est je suis. Point. Et grande différence entre ces deux mondes-là. La vision je suis, on va développer ça, est christocentrique, ça se concentre sur le Christ, et ça donne une théologie, c'est bien ce qu'on va voir ensemble, christocentrique, centré sur le Christ. On a le Seigneur, qui est le Dieu de chaque personne dans ce monde qu'il a créé, le Seigneur qui est le Dieu de toutes les ethnies dans ce monde qu'il a créé, et le Seigneur qui est le Dieu de tous les croyants. Et on va développer, c'est toi, il est Seigneur de tout le reste, on aurait pu choisir beaucoup d'autres choses, mais on va se concentrer sur ça, et on va mettre ça en face, pardon, je suis allé trop vite, ou pas, où il est mon deuxième? Bah tant pis, on va aller là, direct. Christocentrique, il est sur la feuille, et pas sur le truc. C'est-à-dire, il est là, voilà. Les visions « je suis » en minuscules sont ce qu'on appelle culturocentriques, centrées sur notre culture. Et sur le plan théologique, on va considérer trois idées qui correspondent à ça. Encore, il y en a peut-être plein d'autres, mais ce matin, on considère trois. Une théologie égocentrique, c'est-à-dire tournée autour de moi. Une théologie ethnocentrique, c'est-à-dire qui tourne autour de mon ethnie, et une théologie ecclésiocentrique, c'est-à-dire qui tourne autour de mon église. Okay? Voilà trois idées à considérer. Et c'est ça qui donne notre petit triangle. Hein? Moi, j'aime bien les voilà, petits trucs en images. Et on a christocentrique au milieu, et vous voyez bien que mon ordi me dit, mais c'est pas un mot ça, donc c'est souligné en rouge. Okay. Égocentrique, ethnocentrique, ecclésiocentrique. La question pour nous, et ce que j'aurais pu ajouter, sont des flèches. Est-ce que je vais vers le centre, ou est-ce que ma vision égocentrique m'éloigne du centre? Est-ce que je vais vers le centre ou est-ce que mon ethnocentrisme m'éloigne du centre? Est-ce que je vais vers le centre ou est-ce que mon ecclésiocentrisme m'éloigne du centre? Voilà trois questions qu'on va contempler ensemble. Parce que ces points nous envoient vers d'autres choses. Des mots peut-être qu'on n'aime pas trop, mais qu'on va voir ensemble. Parce que notre théologie égocentrique, est centrée, bien entendu, sur moi. Elle aboutit, intéressant, on va voir ensemble, à l'idolâtrie, et un autre mot qu'on n'emploie pas beaucoup, à l'anthropocentrisme. Anthropo comme l'homme et centre de l'univers. OK? C'est moi. D'ailleurs, la meilleure façon de bien se gérer dans le monde quand vous voyagez, c'est quand vous quittez l'avion, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez, c'est quoi la meilleure chose au monde? Demandez, peu importe là où vous êtes, et vous allez trouver que si vous partez, je sais pas, en Portugal, vous allez trouver la meilleure chose au monde, et les Portugais l'ont. Vous allez en Afrique du Sud, et vous allez découvrir la meilleure chose au monde, et ceux qui sont en Afrique du Sud, ils l'ont. Pourquoi? Parce que c'est moi le centre. La théologie ethnocentrique est centrée sur, non pas moi, mais nous. Nous sommes le centre de l'univers. Nous sommes les meilleurs. Logique. Mais elle aboutit au racisme. logique. Et la théologie ecclésiocentrique est centrée sur notre Église. Nous avons tout comme il faut, et cette vision-là aboutit au légalisme. Et on va regarder ça. Alors, si on avance. Égocentrique, l'idolâtrie, le psaume 115. Qui voudrait lire pour nous le psaume 115? Bien fort, vas-y Jacques.
Notre Dieu est dans les cieux. Tout ce qu'il a voulu, il l'a fait. Leurs idoles sont d'argent et d'or, faites de mains d'hommes. Elles ont une bouche, elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, et elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, et n'entendent pas. Ils ont un nez, et ne sentent pas. Des mains, et elles ne palpent pas. Des pieds, et elles ne marchent pas. Elles ne tirent aucun son de leur gosier. Leur hauteur est leur ressemblance. Tous ceux qui comptent sur elles, fils d'Israël, comptez sur le Seigneur.
Voilà, très bien. Ok. Le Seigneur notre Dieu, dans les cieux, tout ce qu'il veut, il a voulu, il a fait. Tout ce qu'il veut, il fait. On sort de là avec deux possibilités en tant que ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Ceux qui sont créés à l'image de Dieu vont faire tout ce que Dieu fait. Ou bien, tous ceux qui sont créés à l'image de Dieu vont faire comme Dieu. Ben, Dieu, il fait ce qu'il veut et moi, je fais ce que je veux. Satan est derrière l'un ou l'autre. C'est une évidence. Égocentrisme. Je fais ce que je veux. Et quand je fais ce que je veux, je finis quoi? Avec une idole qui, quoi? Me ressemble. Seulement en pire. Parce que l'image qui me ressemble ne parle pas, ne bouge pas, n'entend pas. Pire. Je fais pire. Avec mon égocentrisme. Anthropocentrisme, l'autre sortie pour notre égocentrique vision. Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16. Qui voudrait lire ça pour nous? Soyez pas timide.
Il est du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Les êtres visibles comme les invisibles, trône et souveraineté, autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui.
Ok, très bien. Alors, peut-être que l'apôtre Paul n'était pas au courant, mais en fait, tout a été créé par lui et pour nous. Ben oui. Ça, c'est une vision anthropocentrique. Tout existe pour moi. Et en ce qui concerne les jours que nous vivons aujourd'hui, avec tout ce qui concerne la création, et comment l'homme traite la création, ben, c'est comme ça qu'il traite la création. C'est à moi. Dieu ne dit pas ça. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc je vais bien traiter ce qui appartient à lui. Mais mon égocentrisme, ma vision autre, anthropocentrique, dit non, mais tu es là pour moi. Non. Bien. La suite, ethnocentrisme qui nous amène au racisme. On commence avec Pierre, rappelez-vous, on va finir avec Pierre aussi, donc un petit rappel, juste dans le temps. Actes chapitre 10, 34-35.
Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, je me rends compte en vérité que Dieu est impartial, et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui.
Actes chapitre 10, Pierre a déjà passé pas mal de temps avec Jésus. Il est déjà témoin de la résurrection de Jésus. Il a déjà prêché son sermon en Actes chapitre 2 et d'autres encore. Mais là, aujourd'hui, ce jour-là, Actes chapitre 10, il se rend compte de quelque chose. Tiens, Dieu est impartial. Apparemment, ça prend du temps. Eh bien, On va prendre notre exemple. OK? Voilà. Encore le devise là-bas. Okay. God bless America. Que Dieu bénisse l'Amérique. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a en tête, Dieu? Genèse chapitre 1, depuis le début. C'est quoi la promesse en trois parties donnée à Abraham? Genèse chapitre 12, verset 1 à toi. Qui peut lire? Allez-y. Genèse 12, 1 à toi.
Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafoueraient, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre.
Okay. » Ah, en toi sera... seront bénies, pardon, toutes les familles, toutes les nations, toutes les ethnies de la terre. Tu es là avec moi pour bénir les autres. Devise un peu plus appropriée, ça serait quoi? America bless the nations. Amérique bénit les nations. Pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Différence entre une vision christocentrique et une vision ethnocentrique. L'Église, elle est pour toutes les nations. Jésus nous le rappelle en Matthieu 28. Un texte bien connu qu'il a. Anderson, tu veux?
Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Toute parole m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'année.
Okay. De toutes les nations. De toutes les nations. Faites des disciples. Pierre a entendu ça. Mais c'est en Actes chapitre 10 où il dit, je me rends compte que... Mais oui. Donc on entend... Sans forcément quoi? Comprendre, saisir. Toutes les nations. Et les racheter au ciel qui viennent de quoi? De toutes tribus, langues, peuples et nations. Apocalypse 5, 9.
Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations.
Okay. Les rachetés viennent de partout. C'est qui a voulu ça? C'est Dieu. Qui voulait, depuis le début, bénir toutes les nations. Voilà ce qu'il veut faire. Voilà ce qu'il veut faire avec nous. Voilà ce que nous allons expérimenter au ciel. Un cœur incroyable, où les chanteurs viennent de quoi? De toutes tribus, langues, peuples et nations. Tous les rachetés. Mais ça rentre pas facilement. Assez dur. Galates chapitre 2, versets 11 et 12. Qui peut me lire ça haute voix? J'entends.
Mais quand Pierre vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement. Parce qu'il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les frères non-juifs. Mais après leur arrivée, il prit ses distances et cessa de manger avec les non-juifs, par peur des partisans de la circoncision.
Ok. Voilà. C'est Pierre qui a entendu toutes les nations, en fait, des disciples de toutes les nations. Oui, Jésus. C'est Pierre qui a dit, Actes chapitre 10, « Je me rends compte maintenant que Dieu, il est impartial. » Et plus tard, il prit ses distances et cessa de manger avec ceux de notre ethnie. Dur pour nous, hein? Pas facile ça. Vous allez dire, mais je crois que c'était un problème théologique. Hein? Très bien, on va voir à quel point égocentrisme, ethnocentrisme et ecclésiocentrisme se ressemblent. ecclésiocentrique qui nous envoie vers le légalisme. L'apôtre Paul, Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 8, attention piège, il y a deux diapos, hein. Il y a une suite à lire, c'est long. Ou on peut couper en deux. Allez, qui veut faire ça? On fait la première partie et quelqu'un d'autre pour le deuxième. Allez, c'est parti. Un, deux. Vas-y, Céline.
Pourtant, j'ai des raisons d'avoir aussi confiance en moi-même. Si un autre croit pouvoir se confier en lui-même, je le peux davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu fils d'hébreu, pour la loi pharisien, pour le zèle persécuteur de l'Église, et pour la justice qu'on trouve dans la loi devenue irréprochable.
Ok. Alors, un petit rappel avant de passer à la suite. L'apôtre Paul ne suivait pas la mauvaise religion avant de suivre le Christ. Il suivait le mauvais quoi? Christ, en quelque sorte. Il est juif, il a hérité tout ce que Dieu a mis en place pour que. Donc attention, quand on voit Paul, on n'est pas en train de parler de... Non, c'est dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'il y a comme problème difficile là? Pourquoi j'ai confiance en moi-même? Pourquoi avez-vous confiance en vous? Pourquoi? Et puis cela. Voilà pourquoi j'ai confiance en moi-même. Ah. La suite. C'est qui allait prendre la suite? Je ne me souviens plus. Vas-y, Jacques.
Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère toutes ces pertes en regardant de ce bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ.
Ok, voilà. L'apôtre Paul, il va basculer vers une vision légaliste, il a tout en ordre et il peut te dire toutes les cases cochées. Vers quoi? Vers une vision qui dit, je prends cette liste et qu'est-ce que je fais avec cette liste? Ça part à la poubelle. Pourquoi? Eh bien, un mot. Christ. Tout est perte en regard de ce bien suprême qui est la connaissance de Jésus Christ. Ce n'est pas la même chose, la connaissance de cette religion juive et la connaissance de Christ. C'est pas la même chose. On balance l'un à la poubelle et on accueille l'autre. La différence entre ecclésiocentrique et christocentrique. Alors, ça nous donne, on est déjà à notre dernier texte, c'est vite fait, hein. Le texte en Romains, chapitre 15, verset 7. Une phrase, pas longue.
Donc, les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.
Voilà. Okay. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Comme le Christ. Voilà. Donc, le refrain qu'on peut mettre en tête... Quand on est face à une question qui me rend un peu dans ma réalité égocentrique, c'est quoi comme le Christ ici? Quand je me trouve face à cette petite réalité de mon ethnocentrisme, c'est quoi être comme le Christ? Quand je me trouve face à ma petite vision des choses qui risque de m'empêcher à accueillir l'autre, c'est quoi? Faire comme le Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et alors, ceux qui n'ont pas des lunettes, que tous ceux qui n'ont pas des lunettes se lèvent. Non, c'est une question piège. Pourquoi? Vous savez quoi? Vous avez tous... lunettes. Certains, vous savez que vous les portez, d'autres, non. Mais vous avez tous des lunettes. Et à travers vos lunettes, vous voyez le monde de façon égocentrique, ethnocentrique et ecclésiocentrique. Comme moi. Et voilà, défi. Défi pour nous. Je t'accueille si tu fais comme. Nuance, très facile. Je t'accueille si tu fais, c'est-à-dire je t'accueille en fonction de quoi? De toi. Je t'accueille comme le Christ m'a accueilli. C'est-à-dire je t'accueille en fonction non pas quoi? De toi, mais en fonction de Christ. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Alors, eh oui, qu'est-ce que c'est ce machin? Qu'est-ce que c'est ce machin? Bon, on va prendre quelques minutes pour regarder ça vite fait. Ok, voilà, le titre ici, c'est le rassemblement des cultures. Donc, vous avez, voilà, une tarte là devant vous, et derrière, vous avez des années et des années de recherche, des milliers d'interviews, de conceptions, de machin, qui vous donne une vision culturelle pour notre monde et qui met en contraste des visions du monde. Tout le monde y est, mais pas avec la même vision. OK? Voilà. Et ils étaient assez pointus pour les Suisses qui sont avec nous. De faire le Suisse FR et le Suisse DE. Eh oui. OK. Bon, moi, je suis rentré dedans pour un peu colorer le tableau, là. Et j'ai pris trois points, là. Un, deux et trois. Okay. Trois visions. Et vous voyez, c'est ça qui est bien avec les recherches et l'académie et tout ça. Si vous suivez à la règle, vous comprenez à partir de là pourquoi moi et Khaled, on s'entend jamais. Vous voyez ça? Vous voyez pourquoi? Parce que notre vision du monde est complètement contraire. Et puis on ajoute Philippe au milieu de la discussion, on fait des discussions à toi. Eh oui. Eh oui. Comment faire marcher tout ça ensemble? Eh? Les images, ça fait du bien. Pourquoi? Parce que le point au milieu, c'est là où on se retrouve. Alors, si on remplace ce point par la croix, par une vision christocentrique, tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve. Eh? Voilà. Et on vit ça tous les jours. Tous les jours. Donc, on va se mettre autour de la table. Et je vous invite à considérer, mais mince, on a déjà parlé d'un texte où on était autour de la table, vous vous souvenez? C'était lorsque Pierre mangeait avec les non-juifs. Mais il est parti. J'espère que vous ne partez pas, vous. Mais vous serez tenté de partir. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre autour de la table ensemble? Mon égocentrisme qui m'amène vers mon idolâtrie, ce que je fabrique en image de moi. Quelles idoles sont l'œuvre de mes mains? Qu'est-ce que je fabrique? Et comment plutôt bénir mon prochain, c'est ce que Dieu m'a accordé en tant que personne, pour bénir les autres. Et quel racisme se manifeste-t-il en moi? Et la question est claire. J'aurais pu mettre sur la feuille, enfin, sur le tableau ici, est-ce que le racisme se manifeste. Je n'ai pas mis ça. Quel racisme? Notre vision du monde inconscient fait sortir des comportements inconscients. comment devenir conscient de notre racisme. Comment plutôt accueillir, comment accueillir l'étranger? Comment faire? C'est plutôt la question. Forcément, l'étranger, la personne qui ne fait pas partie de mon ethnie. Comment faire? Voilà l'invitation d'une vision christocentrique. Et puis, quel légalisme me séduit? Il y a un paquet. Lequel me séduit? Et comment plutôt encourager la foi de l'autre? Comment, avec une vision christocentrique, amener ou aider l'autre à se rapprocher non pas de moi, mais du Christ? Voilà. Alors, vous voyez que l'avantage des cours de CM, c'est quoi? C'est que, à la fin du cours, ce sont les étudiants qui ont été interrogés et non pas le prof. Non. Mais même ça fait partie de notre culture. Je suis même une fois en Côte d'Ivoire profité pour tomber dans les pommes en plein milieu de tout ça. Brady s'en souvient très bien. Nous avons l'habitude de quoi? On entend quelque chose et puis on interroge celui qui nous a parlé. Même ça, ça trahit quelque chose dans notre vision. Pourquoi pas plutôt entendre quelque chose et s'interroger sur ce qu'on vient d'entendre? Intéressant. Okay. Bon, je suis là pour, je veux bien qu'on échange, pas de souci. Mais c'est intéressant notre vision. Et d'où vient cette vision? Exemple après exemple. Ok? Voilà notre monde. Une seule espérance pour ce monde, c'est quoi? C'est le Christ qui est là. Une seule espérance. Et donc, la vision la plus christocentrique qui soit, peut-être, c'est tout simplement la parole de l'apôtre Paul en Philippiens 1:21. Car pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir m'est un gain. Quand je vois tout à travers lui, quand les lunettes que je porte s'appelle pour non Christ, ça change tout. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voilà l'invitation pour nous. Bon, il y a énormément de choses à dire. J'ai fait une petite synthèse de plein de choses. Mais la question de notre rôle, notre vie dans ce monde, dans notre culture, à côté du Christ, fondamental, parce qu'on vit cela tous les jours. On est face à un égocentrisme, face à un ethnocentrisme, face à un ecclésiocentrisme, tout le temps. Comment vivre une vie christocentrique? Voilà. Ça demande du travail. C'est pas facile. Ça prend du temps. Et avec l'apôtre Pierre, peut-être après des années, on va tomber dans le trou, comme il est fait. Mais Dieu, il est là pour nous. Il nous relève, il nous fait repartir. Il nous invite à suivre.